je suis un peu impressionnée par tous ces appareils parce que il existe une version papier de ce que je vais dire, et en fait ce sont des choses très simples. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup d'être enregistré. Bon, enfin bon. Alors donc je vais vous parler ce soir de l'angoisse dans l'enseignement de Lacan. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet difficile, et je vais m'efforcer de l'introduire comme je peux. Alors tout d'abord, puisque j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui sont rentrés parce qu'ils ont vu la lumière, c'est principalement à ces gens auxquels en général je m'adresse, je vais donc parler de Lacan lui-même, un petit peu quand même. Donc Lacan, alors c'est un psychanalyste inventif et novateur, mais aussi un penseur original qui traversa le XXe siècle, donc il est né en 1901 et il est mort en 1981, et dont l'ambition était probablement de révolutionner la psychanalyse. Pas moins. Donc c'est un génie pour les uns, et c'est aussi un imposteur pour les autres, parce que son enseignement est un peu difficile, voire incompréhensible par moments. Et Jacques Lacan, c'est d'abord un style qui est devenu, pour ceux qui l'ont connu, dont je ne suis pas, une légende. Donc c'est un type étonnant, un peu dandy, collectionneur, amateur de costumes originaux, de belles voitures, de tableaux, et paraît-il de femmes. Donc Lacan décoiffait, et sa trajectoire est à l'image de l'homme, pas seulement psychanalyste, puisqu'il était aussi un peu philosophe, c'est pour ça qu'on le qualifie parfois de penseur, ce qui est quand même un très beau mot pour étiqueter les gens dont on ne sait que faire, enfin dans l'histoire de la pensée. Il était aussi un peu, mais pas vraiment écrivain, puisqu'il a peu et tardivement publié. Les écrits sont parus en 1966. Bon, il avait fait principalement des articles. Et il n'était pas tout à fait non plus, mais un peu quand même, maître de vérité, puisque son enseignement n'a cessé de bouger, de se transformer et d'évoluer. Alors jeune, il a rencontré les surréalistes, il s'est intéressé aux enjeux philosophiques de son temps. Il a fréquenté notamment Kojève et Coiré, qui étaient deux intellectuels d'origine russe, et qui l'ont introduit à la lecture de Hegel et à la philosophie des sciences. Dans les années 30, il fait une analyse chez Rudolf Lovenstein et devient membre de la Société psychanalytique de Paris. Donc à l'époque, il y avait peu de gens, il n'y avait qu'une seule chapelle, entre guillemets, donc c'était celle-ci. Il effectue son entrée sur la scène de la psychanalyse internationale lors du congrès de Marion Bad, où il présente un texte resté célèbre sur le stade du miroir. J'y reviens après. Il semble que ce n'est pas sur le divan ou en compagnie de ses pairs qu'il ait le plus appris, mais avec l'une de ses malades, qu'il a appelée ensuite le cas Aimé, cette paranoïaque fascinante dont il admirait la rigueur, est le sujet de sa thèse de médecine, qui s'est appelée « De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité ». Donc on peut dire, puisque c'est là quand même son entrée sur la scène de la pensée, qu'avant toute chose, peut-être, Lacan aima les fous, et il mena une réflexion novatrice sur les psychoses. Alors après la guerre, il commence à faire parler de lui, il promeut donc le retour à Freud, même s'il n'a jamais rencontré le père fondateur. Pourtant, même s'il ne l'a pas rencontré, Lacan réussit sa rencontre avec le texte même de Freud, dont il sera un lecteur inlassable, et dont il dira avoir tenté de faire un jardin à la française. Il est vrai qu'en France, au moment où Lacan se lance un petit peu comme ça dans ce texte freudien, fait rage le structuralisme. Le structuralisme, c'est donc un mouvement qui tente de faire rentrer les faits dans des catégories logiques. Et Lacan est touché par le virus. Il lit l'inconscient découvert par Freud en le rapportant au langage, qui en est selon lui la condition. Donc, on peut dire de façon rapide qu'il a marié la psychanalyse avec la linguistique. Il tente de donner des lois à l'inconscient. Ces lois sont celles du langage, ce sont donc avant tout celles de la métaphore et de la métonymie, qui indiquent comment le sens est produit, comment il est pris dans un mouvement de fuite et de dérobade, ou comment il est fixé dans ce mouvement. Son enseignement original jouit d'une popularité croissante auprès des jeunes analystes. Le séminaire, c'est-à-dire les cours qu'il donnait, commence au début des années 50. Alors d'abord, c'est artisanal, puisque ça se tient au domicile même de Lacan. Et là, il commente les textes freudiens devant une vingtaine d'analystes en formation. Plus tard, bien sûr, les choses prendront de l'ampleur, et Lacan enseignera à Sainte-Anne, puis à l'École normale supérieure, deux endroits dont il sera finalement écarté, avant de trouver refuge à la faculté de droit. à ce moment, donc c'est, je dirais, la fin de sa carrière, enfin la fin de sa carrière qui a quand même duré 10 ou 20 ans, Lacan donne un one-man show très couru de la bonne société parisienne. C'est qu'il est un orateur exceptionnel. Ce qui est étonnant, c'est que malgré un succès public croissant, c'est véritablement en outsider de la pensée qu'il révolutionne la psychanalyse. Je dis en outsider parce qu'en fait, il n'était pas membre des institutions prestigieuses où sont les vrais intellectuels. Je veux parler du Collège de France, de l'Académie française, et j'en passe. Alors, puisque l'inconscient est structuré comme un langage, selon sa formule bien connue, il faut en tirer les conséquences en ce qui concerne la science analytique. Alors lui, il a introduit donc un jeu sur le temps, parce qu'il pense que c'est aussi ça, la science analytique, et ainsi, cette séance doit contribuer à ouvrir et à précipiter le langage du patient. Lacan introduit donc les séances à durée variable, innovation controversée qui divise encore aujourd'hui les psychanalystes. À l'époque, en tout cas, c'est mal vu au sein de la Société psychanalytique de Paris, et la durée des séances était considérée comme sacro-sainte. C'est-à-dire, c'était une durée fixe. Lacan, refusant de faire comme les autres, se fâche avec beaucoup de gens. Après une série de ruptures, il fonde en 1964 l'école freudienne de Paris, qui se place en marge de la toute-puissante Association internationale de psychanalyse dont il a été exclu. Je vous passe en fait toute l'histoire des mouvements de psychanalyse, parce que c'est très compliqué. En fait, il s'est fâché avec tout le monde. En 1981, il crée finalement l'école de la cause freudienne. On peut dire que Lacan était probablement animé par le désir d'être une victime, une forme de pierre rejetée d'un ordre du monde qu'il conteste, et il se veut à sa manière un hérétique. D'ailleurs, il a parlé de la figure de l'hérétique dans son enseignement, et c'est précisément de sa position d'exception qu'il fonde des institutions analytiques. Aujourd'hui, c'est le lacanisme, et lui seul, qui divise en deux pôles le champ psychanalytique français, les non-lacaniens d'un côté et les lacaniens de l'autre. Lacan cherche et réussit à introduire la subversion et le désordre au sein d'un monde psychanalytique qu'il perçoit comme un peu trop plan-plan. À sa manière, il a été le héros de la psychanalyse, une sorte de héros de la psychanalyse, un héros en tout cas d'un genre moins bourgeois que Freud, à cause de son style inimitable, mais beaucoup copié. Puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont connu Lacan et qui cherchent à l'imiter dans leur façon de s'habiller, voire de parler. En tout cas, il était sensible au style, et d'ailleurs il a repris cette phrase de l'écrivain Buffon, « Le style, c'est l'homme même », et c'était une phrase qu'il aimait beaucoup. Lacan était certes un combattant, un rebelle, mais il ne faut pas non plus forcer le trait de l'image d'Épinal, même si moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'aime. Si le nom de Lacan finit par s'imposer en psychanalyse, il fait son chemin aussi dans le paysage intellectuel français du XXe siècle. Car Lacan a poursuivi un dialogue avec ceux dont il était l'ami, et ils étaient nombreux. Il y a eu donc Bataille, Sartre, Merleau-Ponty, Camus, Lévi-Strauss ou Jacobson. Jusqu'à la fin de sa vie, il reste un esprit d'une curiosité insatiable, ouvert aux domaines les plus divers de la culture. Dans ses textes, il se réfère à Aristote, Wittgenstein, Kant, Spinoza, Frege, Cantor, c'est-à-dire qu'il balaye un petit peu tous les champs comme ça de la culture, que ce soit les mathématiques, la linguistique, la philosophie, et à la fin, la topologie avec ces nœuds là, avec lesquels il s'est beaucoup amusé et avec lesquels il voulait représenter l'inconscient. En tout cas, il a toujours incité ses élèves à s'intéresser à l'anthropologie, à la linguistique, à la philosophie, à l'art et aux sciences exactes. C'est dire que de nombreux champs du savoir ont été ainsi contaminés par son enseignement, lui-même étant contaminé par d'autres champs du savoir. Alors, la question que se pose, c'est que reste-t-il de son enseignement ? Alors, il reste beaucoup de choses qui sont cousues ensemble. Il reste des commentaires magnifiques et souvent drôles de livres ou de tableaux célèbres qui nous les rendent proches et vivants à la fois. Je pense à Antigone, je pense à Ménine de Velázquez, enfin, il y en a toute une tripotée comme ça qui sont quand même très plaisants et qui nous rendent un petit peu la fraîcheur comme ça de ces monuments de la culture, puisqu'il s'agit de ça souvent. Il reste aussi des éléments dits cliniques, donc ça c'est censé servir aux psychanalystes, et il reste une prolifération de concepts, toujours mouvants, repris, retravaillés, comme pour brouiller les pistes. Son œuvre est écrite dans une langue complexe, un peu tournicotée, un rien précieuse, imprégnée d'influences multiples et qui imite probablement les volutes de l'inconscient. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne doit pas comprendre. Si les écrits du maître sont un livre difficile d'accès pour les non-initiés, on peut croire qu'il l'a fait exprès. D'ailleurs, il a toujours fait exprès, probablement, d'être aussi peu clair, d'être aussi difficile en tout cas, parce que l'inconscient lui-même est ardu à déchiffrer. Il faut se donner du mal pour en aborder les rivages, et surtout, ne pas croire d'avance qu'on a compris. Les écrits de Lacan, surnommés malicieusement par certains les écrans de l'acquis, j'aime beaucoup, se veulent justement tout sauf un livre de cours qu'il faudrait potasser pour devenir savant. En fait, cet ouvrage se veut une antidote contre le psychanalyste qui a tout compris ou le lecteur qui a tout compris. Il est là pour rappeler que comprendre est un effort et est surtout une construction personnelle toujours à reprendre. Et ce d'autant plus que Lacan n'a cessé, au fil de ses séminaires, de reprendre et de travailler les termes que lui-même utilise, que ce soit les siens ou qu'il les ait pris aux autres. Bref, la rencontre de cette langue difficile avec une pensée en mouvement donne quelque chose de très étonnant, qui tient à la fois du puzzle et du rébus, inspirant les questions suivantes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? De quoi parle-t-il? Comment est-ce que tout ça se raboute ensemble? Donc c'est là quelque chose susceptible de rebuter, mais aussi de fasciner, et voilà pourquoi il existe des lacaniens, c'est-à-dire des gens qui sont très intéressés par l'enseignement de Lacan et qui passent une partie de leur temps à lire les textes du maître, à essayer de comprendre et en discuter avec d'autres. Et justement, alors pour vous donner un exemple plus précis, rentrer dans le vif du sujet, venons-en à ce concept d'angoisse. Naturellement, celui-ci n'échappe pas à la règle. Lacan n'a cessé de le remanier et de le repenser dans ce système complexe qu'est son œuvre. Alors l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est un concept angoissant. D'ailleurs, dans le langage populaire, quand on s'écrit « Ah, l'angoisse », c'est bien pour dire que ça ne va pas bien. Mais l'angoisse, personne ne sait précisément ce que c'est. Chez Lacan, on peut dire d'abord que l'angoisse est une structure constitutive de l'organisation psychique. C'est lui qui l'a dit. Elle n'est pas tant un état propre au sujet angoissant que le signifiant même de toute subjectivité humaine. C'est-à-dire que fondamentalement, on est tous angoissés. Un peu d'histoire du concept. L'angoisse a longtemps été considérée en psychiatrie comme l'un des symptômes les plus courants du désordre mental, qu'elle s'exprime sous forme de phénomènes mentaux, peur, soucis, ou de phénomènes psychiques, fatigue, tension. Le terme allemand, utilisé par Freud, Angst, peut avoir un sens psychiatrique, mais n'est pas exclusivement un terme technique. Freud a développé deux théories de l'angoisse, pour faire simple. De 1884 à 1925, il a mis en avant l'idée que l'angoisse était la transformation de la libido sexuelle qui n'avait pas pu trouver d'exutoire. Et en 1926, dans Inhibition, symptômes et angoisse, il abandonne cette théorie et défend l'idée que l'angoisse serait une réponse à une situation traumatique. Ce type de situation traumatique, selon Freud, advient lors de situations de danger, comme la naissance, la perte de la mère et par-dessus tout la castration. Freud distingue l'angoisse automatique, quand l'angoisse provient directement d'une situation traumatique, et l'angoisse comme signal, quand elle est vécue sous forme d'un avertissement d'une situation de danger. Bon, vous allez me dire, et chez Lacan? Alors, ses premières idées sur l'angoisse sont la matrice de certaines idées qu'il développera plus tard. Dans ses écrits d'avant-guerre, il défend l'idée que l'angoisse est liée à la menace de fragmentation à laquelle le sujet est confronté lors du stade du miroir. Alors là, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que le stade du miroir? Alors, très brièvement, parce que, bon voilà, je pense que c'est quand même connu, donc, puis, comme je le disais, je m'adresse surtout à ceux qui ont vu la lumière et qui sont rentrés. Alors, le stade du miroir, c'est l'enfant entre 6 et 18 mois rencontre son reflet dans un miroir et ce reflet structure son corps comme forme imaginaire. Alors donc il se voit dans la glace, il jubile, il se prend pour l'image qu'il voit, donc l'image qu'il voit, qu'il rencontre de lui-même dans la glace. Donc c'est à ce moment-là que son « moi », entre guillemets, s'établit comme une fiction, sous le regard d'un adulte qui confirme « oui, c'est bien toi », en général c'est la mère ou la personne qui s'occupe du gamin. Et cela lui permet d'évacuer l'angoisse de l'image de la fragmentation du corps. C'est-à-dire qu'il se voit en tant que totalité, si j'ose dire, et ainsi, en fait, il est moins angoissé, pour faire rapidement. Donc selon Lacan, c'est longtemps après le stade du miroir que les fantasmes de démembrement du corps se focalisent sur le pénis, donnant lieu à l'angoisse de castration. Donc ça, c'est, voilà, il l'a dit en 1938. Lacan relie aussi l'angoisse avec la peur d'être dévoré par la mère. On voit ici l'influence de la psychanalyste Mélanie Klein, dont c'était l'un des thèmes. Cette manière d'aborder l'angoisse, qui sera reprise par la suite par Lacan, marque la différence entre Lacan et Freud. Quand Freud pose qu'une des causes de l'angoisse est la séparation d'avec la mère, Lacan, au contraire, défend l'idée que c'est précisément le manque de séparation qui a pour conséquence l'angoisse. Mais n'allons pas trop vite. Donc, continuons à voyager avec l'angoisse sur le dos de Lacan, et passons à présent au Lacan d'après la guerre. Alors, l'angoisse continue, si j'ose dire, à bouger dans son enseignement. Après 1953, Lacan en vient à articuler l'angoisse avec le concept de réel, qui est pour lui quelque chose de traumatique, demeurant extérieur à toute symbolisation et ne pouvant faire l'objet d'aucune médiation. Alors le réel pour Lacan, c'est quelque chose qu'on ne peut atteindre et qui met dans une certaine mesure les mots et les idées en échec. Donc c'est l'objet d'angoisse par excellence. Alors petite parenthèse, là encore, bon pour faire simple, chez Lacan, on discerne en fait trois instances qui forment une sorte de trinité. Donc il y a le réel, c'est-à-dire le monde nu, c'est-à-dire qu'on n'atteint jamais parce qu'on n'arrive pas à le conceptualiser. Il y a l'imaginaire qui, lui, a trait à nos rapports avec les autres. Donc en général, ça se traduit par des rapports de rivalité, d'identification ou d'amour. L'imaginaire peut être représenté par ces deux personnages de bande dessinée qui sont très semblables et qui ne cessent de s'asséner des coups sur la tête dans un exercice sans fin dont le rythme s'accélère jusqu'à ce que les deux protagonistes s'enfoncent dans le sol. Bref, la relation imaginaire est inexorable et généralement sans issue. L'imaginaire s'incarne en fait dans des images. Bon, alors maintenant, le symbolique. Alors le symbolique intervient comme un arbitre par rapport aux deux registres précédents, c'est-à-dire l'imaginaire et le réel. On pourrait dire qu'il désenglue le désir de l'imaginaire en lui imposant une sorte de loi extérieure, généralement par l'action du père. Mais parfois, il y a un bug dans la machine, de ce que je viens de décrire, bon, qui est évidemment très simplifié. Et quand il n'y a pas de support à cette loi du père, il est possible qu'un enfant devienne fou. Puisqu'en fait, cette espèce de trinité, la réelle, l'imaginaire symbolique, en fait, c'est ce qui fait le relief de ce qu'on perçoit. Pour essayer de traduire avec mes mots, qui sont souvent pas les bons, mais enfin, c'est avec ça que je parle, alors... Alors, oui, donc, quand on n'a pas, en fait, ces trois instances à peu près, disons, au bon endroit, si j'ose dire, eh bien, il est possible qu'on devienne fou, ou qu'un enfant devienne fou. Mais alors, justement, ça, c'est intéressant, parce que chez Lacan, c'est pas toujours un désastre, contrairement à chez d'autres penseurs, puisque Lacan adorait les fous, et son idée, c'est qu'en fait, être fou peut parfois être une chance, une grande chance même, puisque Lacan prêtait beaucoup de créativité aux fous, enfin un certain fou, auquel il s'est intéressé de très près, puisqu'il pensait qu'effectivement, quand on était fou, parfois on avait la capacité à inventer du nouveau, ce qui n'était, à son idée, parfois pas le cas des névrosés. Bon, maintenant, quittons le réel et passons à une autre idée de Lacan sur l'angoisse, alors qui est mise en avant vers la fin des années 50. Alors, l'angoisse serait le danger que le sujet veut éviter à tout prix, et justement pour éviter ce danger, il va se servir de la phobie ou du fétichisme, qui ne sont rien d'autre pour lui que des moyens de s'en défendre. En effet, la phobie est le moyen de coudre ensemble l'angoisse avec une peur clairement identifiée. Par exemple, si vous avez peur, vous avez peur de monter en avion, on voit bien que votre angoisse se coud avec quelque chose d'identifié, et donc ça devient plus acceptable pour vous. Parce qu'en fait, ce qui est inquiétant dans l'angoisse, c'est le fait qu'elle n'est pas centrée sur un objet précis. Donc certains vont l'associer avec autre chose. Et cette conception, donc, Lacan la déploie dans son analyse du cas du petit Hans, le cas de Freud. Donc c'est un cas qui est effectivement très connu, dont je crois qu'on vous a parlé la dernière fois. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a peur des chevaux, donc c'est un cas très connu. Parce que c'est la première psychanalyse d'enfant donc dans l'histoire, donc c'est quand même un très beau cas. Donc dans ce cas, où est l'angoisse? Alors selon Lacan, L'angoisse émerge au lieu de jointure entre, d'une part, l'endroit où le petit garçon est aimé par sa mère comme le phallus imaginaire, c'est-à-dire comme, pour traduire comme ce qui la compléterait, et d'autre part, l'organe réel du petit garçon, c'est-à-dire le pénis, dont la présence se fait sentir au moment où l'enfant commence à se masturber. Donc ici se produit une forme de hiatus entre, pour le petit Hans, être l'objet d'amour de la mère, et avoir un pénis. Hans aurait pu être soulagé de son angoisse par l'intervention de son père, mais cette intervention n'a pas lieu, car le père ne parvient pas à séparer Hans de sa mère. Et ce qui apparaît dans ce cas, enfin ce cas lu par Lacan, comme il n'y a pas de séparation, comme il est trop collé à sa mère, il est trop collé à sa mère, ça fait émerger l'angoisse, et donc il y a échec de la séparation, et pour donner un nom en quelque sorte, rendre vivable cette angoisse, le petit Hans va la coudre en quelque sorte avec une phobie qui est une phobie des chevaux. En conséquence, en tout cas c'est comme ça que Lacan lit le cas de Freud, la castration n'est pas source d'angoisse, mais elle est ce qui sauve le sujet de l'angoisse. Enfin, ici, bon. Évidemment, Lacan ne s'en tient pas là. Dans le séminaire de 1960-61, donc on continue le voyage dans le temps, donc à chaque fois il va reprendre le truc, hein, donc c'est vrai que c'est un peu difficile à suivre, puisque à chaque fois c'est tissé, enfin il est là avec ses fils de trucs, et puis c'est recousu avec d'autres machins, ce qui fait que ça donne une sorte de truc. Enfin d'ailleurs, pour tout vous dire, la vérité, en fait, quand j'ai accepté le sujet, je me suis dit que sincèrement il y avait peut-être des sujets plus malins. Mais bon, maintenant que j'ai accepté, je vais aller jusqu'au bout, mais je pense sincèrement que c'est quand même un sujet assez difficile, puisqu'il faut... Bon, bref, je continue. Alors donc, dans le séminaire de 60-61, Lacan accentue la relation de l'angoisse au désir. L'angoisse est un moyen de sauvegarder la place du désir quand l'objet vient à manquer, et à l'inverse, le désir est un remède pour l'angoisse. Le docteur Lacan défend l'idée que la source d'angoisse n'est pas toujours interne au sujet, mais peut parfois venir de l'autre, donc l'angoisse se transmettrait comme la peur, d'une certaine manière, comme la peur pourrait se transmettre d'un animal à l'autre dans une horde. C'est pourquoi l'analyste ne doit pas permettre sa propre angoisse d'interférer avec le traitement. Et ça, il ne peut le faire, c'est-à-dire mettre une barrière à sa propre angoisse, puisque comme chacun est angoissé, il ne faut pas la repasser aux autres, en tout cas quand on est psychanalyste, c'est une mauvaise idée. Et bien justement, il serait en quelque sorte protégé par son propre désir, désir d'analyste, puisque, petite parenthèse, le désir de l'analyste chez Lacan, c'est un désir spécial, c'est un truc assez mystérieux qu'il n'a jamais défini précisément, quelque chose d'inédit, une sorte de désir nouveau, qui est peut-être un désir de logique, en tout cas un désir de chercher la différence absolue d'un sujet à travers ses symptômes et ses lapsus. Donc, continuons, passons au séminaire de 62-63, alors intitulé simplement « L'angoisse ». Alors je l'ai là, alors je ne l'ai pas lu dans cette version en fait, donc il est publié depuis peu aux éditions du Seuil, et pour les débutants je le déconseille parce que moi-même je dois avouer que je ne comprends pas tout, et je trouve ça extrêmement difficile à lire. Et je pense qu'il vaut mieux entrer dans Lacan par d'autres biens un peu plus plaisants, parce que celui-là, il est vraiment dur. Hein. Et alors, que dit Lacan sur l'angoisse dans ce texte? Il dit que l'angoisse est un affect, donc c'est assez curieux ce mot affect, enfin ça m'a laissé un peu dubitative, mais enfin il le dit comme ça, donc c'est un affect, selon lui, un affect qui ne trompe pas. Donc ça, il insiste beaucoup, c'est assez clair. Donc là où Freud distinguait entre la peur qui... elle est centrée sur un objet spécifique et l'angoisse qui, elle, ne le serait pas, Lacan défend maintenant l'idée que l'angoisse, dit-il, n'est pas sans objet. Donc ça aussi, c'est une ces grandes phrases énigmatiques de ce séminaire-là. Donc en fait, voilà, l'angoisse a un objet. Alors selon lui, elle met en cause, justement, quel objet, c'est bien la question. Donc l'angoisse met en cause un objet spécifique que Lacan appelle « objet petit a ». Donc ça s'écrit objet A, donc A comme un A minuscule, simplement ça se lit objet petit a. Alors ici, nouvelle petite parenthèse, qui va peut-être durer un petit peu plus, qu'est-ce que c'est l'objet petit a? Alors là on touche à l'un des concepts les plus nouveaux chez Lacan, puisqu'il pensait qu'en fait chacun de nous, être désirant, on est mu par quelque chose qui s'appelle l'objet petit a, et qui fait qu'en fait on tourne toujours autour sans jamais l'atteindre puisqu'on ne peut pas l'atteindre, et cet objet est en fait au centre même de ce qui nous fait désirer. Alors en fait, l'objet Ptita, c'est Lacan qui l'a inventé. Il s'est appuyé pour ça sur des travaux comme de psychanalystes comme Mélanie Klein et Winnicott. L'objet Ptita, donc, c'est quelque chose qui est caché, qui est convoité, qui est différent pour chacun, et quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait courir, et qui aussi parfois engendre différents désastres de notre existence. Donc c'est quelque chose qui peut sembler assez abstrait, mais qu'il nous faut imaginer comme ce qui nous donnerait en fait ce qui nous manque. C'est évidemment assez difficile à concevoir, mais ce qui pourrait faire que notre désir soit enfin comblé si on pouvait éventuellement le toucher ou le tenir entre nos mains. Évidemment, c'est très théorique puisqu'on ne peut pas s'en emparer, et il est par définition irrémédiablement perdu. Donc, malgré tout, enfin, c'est peut-être justement parce qu'il est irrémédiablement perdu, on s'échine à tourner autour et on ne peut pas l'atteindre. Donc, en fait, on ne peut pas l'atteindre, mais on essaie de l'atteindre par la pulsion qui est précisément programmée pour essayer de mettre la main dessus. C'est-à-dire qu'on essaye quand même, mais c'est vain. Enfin, après tout, c'est ce qui fait qu'on désire toujours plus et toujours autre chose et toujours plus loin, et qu'on s'aperçoit que désirant, on désire quand même des choses qui ont un trait commun. Donc la pulsion fait l'aller-retour entre notre, puisque chacun en a un différent, notre objet Ptita et les autres, c'est-à-dire les gens qui nous entourent. Donc chacun d'entre nous passe sa vie, énumère Lacan, à voir et à se montrer, pour ceux qui tournent autour du regard, à entendre ou à se faire entendre, donc ça c'est pour ceux pour lesquels la voix est l'objet de leur désir, enfin une certaine forme de voix, ou encore à bouffer et à se faire bouffer. Là, on voit bien que c'est le sein qui est au premier plan. Soit, enfin, parce qu'il n'y a que quatre possibilités, donc soit enfin à emmerder les autres et à se faire chier. Et là, évidemment, c'est la merde qui est au centre. Donc, il y en a quatre. Hein. Enfin, il y en a quatre, mais avec des distinguos. Enfin, ça peut être déployé de différentes façons. Donc, il y a le regard, la voix, le sein et la merde. Enfin, les fesses, pour le dire de façon plus soft. Donc, tout ce qui, d'une certaine manière, du corps vers l'extérieur, peut partir ou peut se glisser par un orifice, passer entre les lèvres, choir d'un trou, etc. Et le fantasme, qui est une mise en scène du désir, permet d'accommoder donc cet objet autour duquel on tourne, comme ça, et toujours de la même manière pour chacun. Bon, alors même après des années de divan, on continue, évidemment, il ne faut pas penser que les choses sont très différentes, mais on sait qu'en fait... On sait que toute notre vie, en fait, va se réduire au rapport à un objet inaccessible. Bon, donc là voilà, donc je reviens donc maintenant à l'angoisse, après ce détour par l'objet Ptita. Donc l'angoisse dans le séminaire de Lacan du même nom a affaire avec l'objet du désir, donc cet objet Ptita. L'angoisse surgit quand quelque chose apparaît pour nous, enfin pour chacun d'entre nous, à la place de l'objet Ptita. Elle apparaît quand le sujet, enfin chacun, est confronté au désir de l'autre, enfin du grand autre, et on ne sait pas quel objet il est pour ce désir. Bon, c'est un peu confus. Je vais reformuler. L'angoisse, c'est être l'origine du désir d'un grand autre dans lequel le sujet ne repère pas lui ce qu'il veut. C'est encore confus. Oui. Bon. Alors là, vous allez me dire, je vais faire un petit détour, puis après je vais revenir à mon point, là où j'en suis, avec un exemple. Alors d'abord, c'est quoi le grand autre ? Alors le grand autre, c'est une notion très difficile chez Lacan, c'est une sorte d'instance supérieure qui se distingue du petit autre. En fait, le petit autre, c'est le proche, c'est votre patron, c'est votre voisin, c'est votre copain. Donc c'est... Alors que le grand autre, c'est un truc qui est plus englobant et beaucoup plus autre, si j'ose dire. Bon, enfin, ça peut prendre la forme de la mère, de la loi ou du langage, pour vous donner un exemple. Et revenons à notre sujet, donc l'angoisse. Donc je disais, pour Lacan, l'angoisse, donc dans ce livre sur l'angoisse, dans ce séminaire sur l'angoisse, c'est être capté dans le désir d'une sorte d'instance supérieure, sans savoir vraiment ce que nous, on veut. Alors j'ai trouvé deux exemples. Le premier, pour moi, ce sont par exemple les livres de Kafka. Par exemple, Le Château. Bon. Alors, Le Château, quand on lit ça, en fait, on se sent angoissé. C'est un livre qui est quand même, pour moi, angoissant. L'écrivain met en scène une sorte de lieu du pouvoir mystérieux où se joue pour les habitants du village d'en bas quelque chose qui les dépasse, mais où ils sont complètement englués, puisqu'en fait leur sort dépend du château. Alors, un autre exemple, alors là, tiré de ce qu'il est convenu d'appeler mon expérience de la vie. Dans les grandes entreprises, il y a pas mal de gens qui sont angoissés parce qu'ils se trouvent captés dans des appareils de pouvoir ou alors dans des réseaux où ils ne trouvent pas leur compte. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils sont captés dans quelque chose. Le salarié sent que quelque chose de son travail ou de lui-même est désiré par cette structure, mais il ne sait pas précisément quoi et il ne parvient pas à mettre le doigt sur ce que lui-même veut dans tout ça. Donc pour moi, c'est la façon la plus claire que je puisse voir, en fait, de donner un exemple de ce que c'est que l'angoisse. C'est-à-dire être capté dans un truc où on attend de vous quelque chose, mais vous sentez bien que vous voulez, en fait, vous voulez pas ça, vous voulez pas ce qu'on vous demande, et vous voulez autre chose, mais vous savez pas quoi. Voilà. Bon, c'est une traduction, faut traduire, hein, mais enfin, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc c'est ici qu'on comprend que l'angoisse est un objet, mais un objet qu'elle ignore. Je veux parler donc évidemment de l'objet du désir, parce qu'en fait le salarié dont je parle là, qui est capté dans cette espèce d'énorme truc, il désire quelque chose, mais il ne sait pas quoi en fait, c'est-à-dire que l'objet de son désir est absent. Enfin, dans le contexte que je viens d'évoquer. Donc résumons, l'angoisse c'est peut-être un échec à connaître ou à pressentir l'objet de son désir, ce qui a comme corollaire le fait d'être entraîné dans le désir des autres ou d'un autre. Alors là, on se doute bien qu'évidemment, ce sont des choses qui nous touchent de près, et qu'au fond, l'angoisse telle que Lacan la décrit est un phénomène très contemporain. Puisque on se demande, enfin, si on ne lui doit pas une partie de mots très courants aujourd'hui, comme la dépression, le stress, le harcèlement moral, ou que sais-je. Donc c'est dans ce séminaire sur l'angoisse que Lacan relie l'angoisse au concept de manque. Tout désir vient du manque, et l'angoisse naît quand ce manque lui-même manque. Donc ça, c'est une de ses autres idées. C'est ce que Lacan appelle, dans une formule célèbre, le manque du manque. L'angoisse n'est pas, selon lui, l'absence du saint, mais sa présence inévitable et englobante. C'est la possibilité de son absence qui, en fait, nous protège de l'angoisse. C'est-à-dire, l'angoisse, ça peut être d'être un peu étouffé dans un truc, en fait, hein. Je vous lis un extrait du séminaire sur l'angoisse, puisque c'est un petit passage, mais il me semble assez clair et en même temps assez révélateur du style de Lacan. Ça n'est pas la nostalgie de ce qu'on appelle le sein maternel qui engendre l'angoisse, c'est son imminence, c'est tout ce qui nous annonce quelque chose qui nous permettrait d'entrevoir qu'on va y rentrer. Qu'est-ce qui provoque l'angoisse? Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, le rythme ni l'alternance de la présence-absence de la mère. Et ce qui le prouve, c'est que ce jeu présence-absence, l'enfant se complaît à le renouveler. Cette possibilité de l'absence, c'est ça la sécurité de la présence. Ce qu'il y a de plus angoissant pour l'enfant, c'est que justement ce rapport sur lequel il s'institue du manque qui le fait désir, ce rapport est le plus perturbé quand il n'y a pas de possibilité du manque, quand la mère est tout le temps là sur son dos, et spécialement à lui torcher le cul, modèle de la demande qui ne saurait défaillir. Donc en fait, l'angoisse, c'est carrément être étouffé. Donc on voit bien, c'est le manque du manque, c'est le fait qu'on est complètement étouffé dans quelque chose. Donc, quand le manque manque, le désir se trouve étouffé et se traduit, selon lui, par des fantasmes d'autodestruction, chaos, fusion avec le corps maternel, hallucination. Comment se défend-on contre l'angoisse? Alors on se défend, toujours dans ce séminaire qui est très riche, on se défend par des acting out ou alors des passages à l'acte, et Lacan en parle longuement dans son séminaire sur l'angoisse, en distinguant les deux termes qui auparavant étaient considérés comme synonymes. Je vais vous traduire dans mes mots rapidement ce qu'il a. Voilà, je sais que vous allez avoir une conférence sur le sujet. Un acting out, c'est un message chiffré formulé par une action. Et adressé au grand autre. Donc le sujet ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il est pris dans quelque chose, et il adresse un message comme ça, un peu curieux, et c'est ce qui fait que parfois vous ne comprenez pas toujours ce que fait votre voisin, votre collègue, etc. Le passage à l'acte, en revanche, c'est une sortie de scène, une sortie de la scène où se situe le sujet. C'est une sortie du réseau symbolique. Alors, je donne deux exemples. Exemple d'acting out. Alors, je reprends le contexte de l'entreprise qui décidément m'inspire. Un cadre qui n'est pas content de ses conditions de travail, très énervé, il va licencier sa secrétaire. Pourtant, très appréciée par sa hiérarchie et par lui-même. Elle n'est pas responsable, mais c'est un moyen pour le type, pour la jeune femme, ça peut être aussi une femme, de dire son mécontentement à son entreprise. Exemple de passage à l'acte, on va voir la différence, c'est pas du tout le même contexte. Le même, la même personne, se jette par la fenêtre de son bureau, situé dans une tour de la Défense. Donc on voit que dans les deux exemples, pour en trouver beaucoup d'autres, on n'est pas du tout dans le même registre. Bon, il va peut-être finir parce que... Mais vous voyez, c'est très foisonnant quand même. Bon, laissons ici le séminaire sur l'angoisse. Je vais juste vous parler de la dernière utilisation du concept d'angoisse dans l'enseignement de Lacan, parce qu'en fait, on a cessé de reprendre ce terme comme il a cessé de reprendre tous les autres. Et alors là, ultime pirouette, donc c'est assez amusant. Dans son séminaire de 1974-75, Lacan semble retourner à la première théorie freudienne de l'angoisse, à savoir l'angoisse comme transformation de la libido. Il commente alors l'angoisse comme ce qui existe à l'intérieur du corps quand le corps est submergé par la jouissance phallique. Alors vous allez me dire qu'est-ce que la jouissance phallique? Alors là, bon, dernière petite parenthèse. Alors la jouissance selon Lacan à la fin de son enseignement, c'est-à-dire dans les années 70, il a différencié en fait deux formes de jouissance, donc la jouissance phallique, qui est, si j'ose dire, la jouissance commune, enfin assez simplette, et la jouissance féminine, définie par Lacan comme une sorte de jouissance supplémentaire, ineffable, et située, selon lui, au-delà du phallus. C'est-à-dire qu'il pensait que les femmes jouissaient différemment, et que les femmes jouissent, enfin encore une fois, comme il le disait, ça n'arrive pas à toutes, il fallait qu'elle se connecte sur une sorte de truc situé au-delà, qui a été défini par lui de façon très différente, comme étant une forme de comme étant la mort, le père, enfin on ne sait pas trop bien, mais enfin c'est une autre instance auquel elles ont affaire. Et donc c'est une sorte de jouissance supplémentaire, selon lui, située au-delà du phallus. Parce que, selon Lacan, la femme est fondamentalement différente de l'homme, et on ne peut pas dire qu'il y ait toutes les femmes alors que les hommes s'inscrivent dans des séries. Alors que, en revanche, voilà. Donc on voit bien la différence homme-femme et la différence de jouissance. Donc je reviens à l'angoisse. Donc bon, on voit ici que la boucle est bouclée, puisque finalement il termine finalement sur une forme de clin d'œil à Freud, puisqu'à la fin il retourne de ce qu'il ne voulait pas dire au début. Enfin, donc c'est assez étonnant. Bon, on voit là que la boucle est bouclée, et que l'angoisse s'est incarnée de façon très différente dans la pensée de Lacan, et qui se présente comme une succession de systèmes logiques, puisque à chaque fois, en fait, à chaque phase, je dirais, l'ensemble en fait des concepts qui travaillent s'articulent de façon logique, mais effectivement, quand ils changent, à chaque fois, ils changent la définition de tous les termes, donc c'est une sorte de truc qui tourne en permanence, et c'est ce qui fait que c'est assez étonnant. Et il y a des phases en fait de reconfiguration perpétuelle. Donc pour conclure, vous allez me dire enfin. Alors pour conclure enfin, alors d'abord, le concept d'angoisse est intéressant car il recouvre une multitude de choses. Confrontation réelle, peur d'être capté dans le désir du grand autre, expérience problématique de la jouissance, affrontement de l'image de soi. Donc elle est... Je le redis parce que bon, je pense que c'est intéressant comme phrase. Donc pour Lacan, c'est vraiment le signifiant de toute subjectivité humaine. Autre chose, le voyage que nous venons d'effectuer avec l'angoisse donne un aperçu du chantier toujours ouvert et toujours mouvant de la pensée lacanienne. Et enfin, traverser l'enseignement de Lacan en voyageant sur le dos de l'angoisse permet de découvrir certains des concepts clés de la pensée lacanienne, que j'ai essayé d'introduire comme j'ai pu, comme la dualité petit autre grand autre, acting out passage à l'acte, la jouissance phallique et l'autre jouissance, la trinité réelle imaginaire symbolique, le fameux stade du miroir et enfin, bien entendu, le célèbre objet petit a que j'aime tout particulièrement. Donc j'espère que vous avez fait un bon voyage avec l'angoisse et moi, et j'attends vos questions. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop confus, mais c'est vrai qu'en fait quand on tire, ça tout vient. Et merci. En fait, voilà, donc tout vient et c'est vrai que ça ouvre finalement, voilà, ça ouvre à des mondes. Voilà, on peut tirer le truc de façon très différente et ça, voilà. Oui. Ben, moi, je vois ça en fait comme une sorte de superposition, comme en fait quand vous voyez, en fait, vous voyez les choses en plusieurs dimensions en fait. Hein. Vous voyez pas, par exemple, vous voyez bien que si vous n'avez qu'un seul œil, en fait, vous allez voir les choses de façon plate, et si vous conduisez, c'est dangereux, par exemple. Et là, c'est à peu près pareil. Moi, je vois ça un petit peu, enfin, pour traduire de façon simple. Je pense qu'effectivement, les trois registres pour Lacan s'articulent. Ils sont nécessaires en fait pour toute personne, donc tout le monde les a. Simplement, la façon dont ils sont articulés ensemble varie selon les individus. Et ils pensent que, ben, effectivement, la norme, mais c'est un mot qu'il n'aimait pas du tout, mais enfin, la norme, c'est quand même qu'il y a un registre symbolique qui vienne faire la part des choses dans une certaine mesure et permettre un petit peu à chacun de s'orienter. Sachant que ce registre symbolique, et c'est souvent le père en fait, enfin la loi du père qui permet d'introduire ça, mais que dans un certain nombre d'autres cas, c'est pas justement la loi du père, et c'est pour ça qu'à la fin de son enseignement, il s'est intéressé en fait à ce qu'il a appelé le symptôme, c'est-à-dire c'est une façon de nouer justement ces trois registres, mais en se passant du père à la limite. Et notamment quand il parlait de Joyce, c'est ça qu'il a lu chez Joyce, c'est-à-dire le fait que c'est un grand écrivain, Joyce, qui était probablement assez siphonné, ce qui fait son charme et son génie. Enfin, ça explique pas tout, bien sûr, mais que ce qui faisait tenir en fait sa structure, c'est précisément, enfin donc le réel, le symbolique et l'imaginaire, c'est son écriture. C'est-à-dire qu'il s'est construit en écrivant. Donc en fait, on peut se passer du père pour articuler les trois registres. Les trois registres, oui. Donc pour revenir, en fait, donc il y a le réel. En fait, on peut pas penser le réel à la limite. Le réel, c'est simplement des choses brutes, quoi. C'est tellement brut que c'est impossible pour nous humains de les concevoir. L'imaginaire, c'est toutes les relations de rivalité, oui, c'est ça, d'amour, enfin qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? C'est toutes les manières dont on se voit en fait, enfin on. Et le symbolique, en fait, c'est ce qui a trait à la loi, en fait. C'est en général, c'est binaire, c'est oui-non, enfin, c'est des choses qui sont très structurantes, quoi. Voilà. Ben oui, ça on peut dire ça comme ça, en effet, oui. Oui, sachant que là, c'est plutôt, dans ce que vous dites, ça serait plutôt le grand autre, en fait. Enfin, quand même un truc un peu. Parce que si c'est votre voisine de palier, vous voyez, c'est plutôt une relation comme ça, un peu. Ou votre collègue de bureau. Mais enfin, oui, effectivement, c'est. Oui, ça peut. Bah, oui, c'est oui, enfin disons que c'est la perception qu'on peut avoir du monde. Elle passe par ces trois registres, en effet. Oui, bien sûr, oui, on peut effectivement on peut mettre d'autres exemples, en effet, oui. Alors le grand autre, ça a beaucoup évolué dans Lacan. Alors ça mériterait une conférence en soi, mais c'est pas moi qui la ferai celle-là. Et le grand autre, ben, en fait, c'est une sorte d'instance supérieure. Ça peut être la mer, ça peut être le langage, donc toute la langue en fait dans laquelle on baigne. Ça peut être l'inconscient. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais il faut s'imaginer comme une sorte de grosse chose intimidante en fait dans laquelle on est capté en même temps. C'est-à-dire, c'est surtout par opposition en fait au petit autre. Le petit autre, c'est. Oui, ça peut être une personne, mais en général, c'est plutôt une sorte d'ensemble. Mais ça peut être une personne, par exemple, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Le grand autre, ça peut être l'université, ça peut être. Dire qu'un être tout seul est le grand autre. Ou alors peut-être, par exemple, au moment où Don Juan rencontre l'invité de Pierre, éventuellement, ça pourrait être... Mais enfin, c'est quand même toujours quelque chose de très chargé. En général, quand vous avez affaire à une seule personne... c'est quand même voilà, c'est quand même plus simple. Donc c'est, mais ça, c'est, en fait, il a jamais défini précisément le terme. Par moment c'est l'inconscient, par moment c'est la mer, par moment c'est le langage, par moment ça peut être Dieu, enfin. Donc c'est une sorte de voilà, c'est par opposition au petit autre. Le petit autre, c'est les rapports que vous pouvez avoir, donc de rivalité, d'amour. Donc on voit bien, c'est un autre qui est comme vous, alors que le grand autre, il n'est pas comme vous, en fait. C'est... ouais, il vous englobe pas forcément, ça peut... Oui, ça peut, oui, enfin, il vous concerne de près, enfin, c'est une sorte de gros... sorte de référence, voilà, ouais, plutôt, oui, une sorte de... Ben, il élève pas forcément, parce que ça peut être quelque chose de très angoissant. Ça peut être le pays, par exemple la France. Ça peut être pour certains une sorte de grand autre. Vous voyez, donc oui, c'est ça, si vous voulez, une sorte d'idée. Voilà, c'est ça. Enfin, quelqu'un qui consacrerait sa vie, par exemple, à servir l'honneur de la France, ça pourrait être le grand pour cette personne. Effectivement, la France pourrait être vue comme une forme de grand autre. Ça pourrait être ça, oui. Oui, enfin, oui, où ils baignent dedans, en fait, où ils les servent, ou... Essayez de chercher pour vous, en fait, quelque chose qui soit une sorte de... Je sais pas, moi... oui, cherchez pour vous, en fait, quelque chose qui soit très important. Mais vous êtes impressionné par les grands peintres ? Ben voyez, voilà, ça c'est un exemple, peut-être qu'il faut chercher par là. Ah ben si, c'est très intéressant, au contraire. Non, mais c'est comme ça que vous... Peut-être vous êtes écrasé par... Voilà, oui. Mais là, on est dans l'objet petit A, là, donc on part, on quitte le grand autre, quoique... Tout se tient, mais enfin... Ah oui, mais transportons. Justement, je ne cesse. Là, on a voyagé, alors on continue. Non, mais oui, c'est difficile. Il faut chercher des exemples concrets. Je ne sais pas. C'est effectivement où est le grand autre. Surtout qu'il n'a jamais vraiment précisément défini. Ça peut. Oui, mais ça justement, ça l'intéressait, ça, effectivement, que précisément la vision d'une œuvre d'art pouvait soulager. Enfin, il a repris l'idée de Freud, entre autres. Oui, c'est tout à fait juste, je crois ça aussi, oui. La voix aussi, oui. Oui, mais c'est un moindre mal, presque. Oui, ça se passe, c'est vrai, oui. C'est intéressant, non mais c'est vrai que c'est intéressant, oui, faut effectivement c'est. Ben, vous avez bien fait d'être là, parce que comme ça permet de bien. C'est... Ouais, allez-y, continuez alors. D'autres questions? Ben, selon Lacan, en fait, c'est les quatre objets autour desquels on tourne d'une certaine manière. Et c'est ce qui sort du corps d'une certaine manière. Pour lui, vous voyez le regard comme quelque chose qui sortait de l'orifice des yeux, si vous voulez. La voix de la bouche, etc. La merde, on voit bien. Et le sein, ben oui, c'est le. Voilà, le sein, quoi. Enfin, il voyait ça comme les trois. Enfin, les quatre. des quatre objets après lesquels on, chacun et chacun, enfin dans ces quatre-là, donc il y a une sorte d'objet d'élection, si vous voulez, bon, qui est décliné selon chacun de façon différente. Ça peut être un regard, je sais pas, un regard sans lumière, un regard fendu, enfin tout ce que vous voudrez, ou enfin voilà. Bon, en général, c'est plutôt le regard ou la voix, enfin d'après ce que vous publiez ou observez, donc voilà. La psychopathologie. Vous pensez à quoi, par exemple? Oui, le fait d'entendre des voix. Ben, oui, ça, enfin, c'est un rapport, mais assez lointain. Mais effectivement, oui. Enfin, disons qu'il s'est beaucoup intéressé à tous les phénomènes des gens qui entendent des voix, par exemple. Donc, ça l'a beaucoup intéressé, mais sur un autre plan, je dirais. En fait, plus, en effet, pour savoir comment les gens délirent et comment ça se passe, en fait. Mais pour lui, c'était pas vraiment sur le même plan, en fait. Non, enfin, pas directement, non. Parce que tout le monde, en fait, tout le monde ne délire pas, mais tout le monde a un objet privilégié. Et tout le monde n'entend pas de voix, en fait. Donc ça l'intéressait de voir comment... Oui, enfin, en ce qui concerne la merde, en effet, oui, c'est un rapport avec ça. Oui. Oui. Quoique, bon, les stades, c'est vrai que ça, enfin, dans Lacan, ça l'a pas passionné beaucoup, l'affaire des stades, et voilà, aujourd'hui, c'est considéré comme un peu dépassé, quoi. Enfin, voilà, il y a l'histoire des stades, mais enfin, dire que vraiment, ça passionne beaucoup de gens, c'est vrai que... Enfin, l'origine, en effet, de l'objet fesse vient de là, hein. Parce que selon lui, donc dans le séminaire sur l'angoisse, en fait, c'est le fait que la personne, donc enfin le sujet, est pris dans une sorte de truc, en fait, qui l'étouffe, enfin, pour le dire avec les mots, et comme il est étouffé dans cette espèce de truc, qui peut être plein de choses, en fait, qui peut être, je sais pas, voilà, qui peut être une sorte de truc qui le dépasse et dans lequel il est un peu perdu. Et lui-même, en fait, donc le sujet, là, il a perdu ce qui est sa boussole, finalement, c'est-à-dire son propre objet petit a, qui est l'objet de son désir, et qui est ce après quoi, finalement, il court, et après quoi, il doit courir, en fait. Donc il est lui-même devenu un objet pour une sorte de structure comme ça, un peu, enfin, qui ne le concerne pas, si vous voulez. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'affaire, en fait. Donc ça, je pense que son séminaire sur l'angoisse, en fait, ça a trait au fait que les gens sont immergés dans, enfin, les gens. Le sujet, disons, le sujet angoissé est pris dans quelque chose où lui n'est pas désirant. C'est-à-dire que lui a perdu ne connaît pas ou perd de vue cette boussole, finalement, de son désir qu'est l'objet petit a. Donc c'est ça le rapport, en fait. Parce que la personne qui sait, en fait, qui a une idée, même sans savoir consciemment, parce que qui a une idée de ce après quoi elle court, elle y va plus ou moins, avec des tours et des ratés. Alors que si elle est complètement captée dans le désir d'une organisation ou de quelqu'un, elle va perdre de vue, en fait, ce qu'elle veut faire, enfin, ce qu'elle désire. Voilà, c'est ça le lien. Oui ? Oui, ben en fait, à la fin, il est revenu à l'idée de Freud que finalement l'angoisse, c'est une libido qui est pas forcément exprimée, en fait, hein, qui trouve pas d'expression. Donc il est revenu à ça à la fin un petit peu, et il est parti sur cette idée qu'il y a deux sortes de jouissances, en fait, à la fin de son enseignement. Donc il y a la jouissance phallique un peu bête, si j'ose dire, en fait. Enfin, lui, c'est comme ça qu'il a réparti les choses à ce moment-là. Et puis l'autre jouissance, qui est une jouissance féminine, en fait, que toutes les femmes n'éprouveraient pas, mais qui est une forme de lien comme ça, avec une sorte d'au-delà de son partenaire. À vrai dire, je me souviens plus trop de ce que j'ai dit là, parce que je... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai bien pu dire là ? Ah voilà, il commente alors l'angoisse comme ce qui existe à l'intérieur du corps quand le corps est submergé par la jouissance phallique. Donc en fait, quand on... Voilà, c'est quand on est submergé, mais on voit, enfin je veux dire, c'est typiquement freudien. Là. Il y a un séminaire du 17 décembre 1974. Voilà, je vous le dis, si vous voulez vous reporter le texte. Donc en fait, voilà. Enfin... Non, non, là il parle de la jouissance phallique type, mais la jouissance phallique, en fait, c'est pas uniquement les hommes qui peuvent l'éprouver, en fait. Ça peut être ça peut être vrai chez les hommes et chez les femmes. Simplement, la jouissance féminine, elle, est une sorte de jouissance supplémentaire, en fait, ineffable et située au-delà du phallus. Voilà. A priori, non. On a beaucoup de chance. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais chez Lacan, en fait, les femmes ont beaucoup de privilèges, en fait. C'est-à-dire qu'elles n'entrent pas dans des séries, alors que les hommes, si. Ben, ça veut dire que, enfin, selon Lacan, en fait, il y avait deux catégories d'hommes, en gros. Il y avait les normaux, enfin, qui sont généralement des obsessionnels types, donc des gens assez, voilà, assez standards. Enfin, bon, je le fais rapidement. Et puis ceux qui sont fous, donc qui sont psychotiques. Alors que chez les femmes, en fait, cette distinction-là ne marche pas. Parce que toutes les femmes sont différentes. Sont folles, pas forcément, mais enfin, ils considéraient qu'il y avait plus de variété dans l'espèce, entre guillemets, féminine que chez les hommes, clairement. Et qu'on ne pouvait pas réduire les femmes à des séries, alors qu'il a essayé de faire avec ces sortes de mathèmes, en fait, il s'est amusé avec ça, quoi, pour dire que justement, voilà, les hommes rentraient dans des séries, alors que les femmes sont par définition toutes différentes. Non, non, je crois que c'est voilà, enfin, je traduis comme je peux, mais c'est vraiment ça qui, voilà, ça c'est vers la fin de son enseignement, et... Oui, oui, il pensait vraiment que toutes les femmes sont différentes, c'est pas ma lecture, ça. Non, ma lecture, c'est quand j'essaie de traduire avec des exemples à moi, en fait. Des exemples, voilà. Mais ça, c'est du pur Lacan, bien estampillé, pur porc. Je peux vous garantir que c'est comme ça dans ces textes. Il n'y a pas de... Oui, voilà. Oui, je lis, oui. Oui, excusez-moi, je sais pas si je vous ai répondu bien... Oui, voilà, donc, oui, il est revenu au truc de Freud à la fin, et c'est là-dessus qu'en fait j'ai expliqué donc les deux types de jouissance, en fait. Ben, oui, enfin, je sais pas trop, parce que ça, moi, personnellement, ce qu'il faudrait voir, c'est pourquoi, en fait, il est retourné à ça à ce moment-là. Parce que là, il faudrait creuser l'affaire et tout, puis relire son séminaire de 74-75. Moi, je vois pas trop l'intérêt, en fait, de revenir à Freud à ce moment-là, mais bon... En fait, faut voir que, en fait, tous les concepts et toutes les définitions des concepts jouent dans un système complet, en fait. Donc il a c'est une sorte de jeu de l'ego, en fait, où il remanie en permanence. Ouais, moi je vois pas très. Oui, enfin voilà, donc. Oui, c'est pour ça qu'on se demande pourquoi il est revenu au truc à la fin. Mais bon, après tout, comme ça lui permet d'introduire ces histoires de jouissance phallique et non phallique qui sont quand même passionnantes, on peut se dire que finalement c'est peut-être ça l'intérêt, quoi. C'est peut-être pas de rester scotché au concept d'angoisse et puis dériver sur ces affaires-là qui sont quand même, à mon sens, plus intéressantes que la jouissance. L'angoisse comme transformation de la libido, bon oui, bon voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire au bas. Et essayez de lire le séminaire du 17 décembre 1974, peut-être que ça sera peut-être plus clair, je sais pas en fait. Moi l'idée là m'a pas passionné, alors j'ai pas creusé trop parce que voilà, mais enfin bon, voilà, il y a peut-être une raison d'ensemble qui nous échappe en fait. Il faudrait travailler plus, enfin. Oui? Bah, il se débrouille mal. Bah oui, probablement. Bah ils font comme ils peuvent, hein, donc ça dépend. Ça dépend. Non, mais je... Enfin... Oui, oui, non, mais clairement, non, mais... Oui, je pense que, de toute façon, moi j'ai l'idée qu'en fait, ça marche pas ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il faut en choisir une et puis s'y tenir plus ou moins, si on veut vraiment... Mais je pense que celle qui est décrite dans celui-ci, là, et étant donné qu'il a quand même consacré un séminaire entier, je pense qu'on peut considérer que c'est peut-être en disant que c'est le séminaire 10 qui s'appelle l'angoisse. Et voilà, quand le... Oui, c'est ça, quand le sujet est capté comme ça dans un... Bon, ça me semble, voilà, l'angoisse qui naît du manque, en plus, c'est assez beau. C'est-à-dire le fait qu'on est complètement pris, capté dans une sorte de machin où finalement on n'en a pas la place pour désirer soi-même. Moi, je pense que celle-ci est plutôt pas mal. Puis, c'est vrai, quand on parle d'angoisse chez Lacan, c'est plutôt à ça qu'on se réfère, donc tant qu'à faire, voilà. Oui, moi, je peux pas orienter vos choix, hein, mais si... Oui, c'est plutôt ça. Moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt ça. Puis il y a des trucs qui sont effectivement. Moi, j'aime bien. C'est des sortes de manque du manque qui serait précisément la source de l'angoisse parce qu'on est capté dans un. Ça me semble pas mal quand même. Je trouve que c'est quand même. Oui, c'est aujourd'hui, on est quand même tous pris dans des sortes de gros trucs. Oui, c'est ça. Par rapport à ce que disait Madame, quand même des gens qui sont gavés de télé, qui sont quand même complètement captés dans un truc. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ça peut servir pas mal. C'est voilà. Bah, évidemment, il faut le réduire évidemment à quelques phrases pour que ça puisse faire sens et être simple. Mais après, on peut travailler autour. Enfin, l'ensemble du séminaire qui est assez foisonnant et d'autres questions. Ah, ça, vous posez une grave question. Bah, le psychanalyste lacanien, normalement, déjà, il a plus lu Lacan que le psychanalyste freudien. Quoique les psychanalystes freudiens, maintenant, lisent Lacan. Bon. Et par ailleurs, le psychanalyste lacanien fait des séances à durée variable. Alors que le psychanalyste freudien, lui, fait des séances, enfin, généralement, d'une demi-heure, trois quarts d'heure, à durée fixe, en fait. Non, le prix est fixé en fonction de chaque personne. Enfin, de chaque analysant, de chaque... Voilà, donc en fait, c'est la durée de la cure, je dirais, qui varie beaucoup. Bah, forcément, les références sont un peu différentes, puisque forcément, ils sont plus lacaniens que strictement freudiens. Mais en fait, ce qui fait la différence évidente aux yeux du monde, je dirais, c'est quand même cette affaire de durée de séance qui a quand même contribué à fâcher Lacan avec plein de gens. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs scissions dans la communauté analytique. En fait, c'est même pas tellement que les communautés analytiques refusaient qu'ils pratiquent des séances à durée variable, c'est qu'ils refusaient qu'ils enseignent, en fait. Enfin, voilà, donc c'est des trucs... Mais les psychanalystes s'entendent pas entre eux, donc de toute façon... Voilà, c'est les principales des différences. Je sais pas, il y a d'autres... Oui, comme je disais, il y a d'autres références. Les psychanalystes lacaniens ont tendance évidemment à travailler plus, à travailler donc Freud plus Lacan, alors que les psychanalystes freudiens sont plus axés forcément sur la pensée freudienne. L'organisation des écoles est aussi différente. Enfin, les lacaniens sont peut-être plus bordéliques, ils ont plus tendance à créer des groupes, des chapelles, à se séparer, alors que chez les freudiens, c'est un peu plus feutré en fait. C'est plus un gros truc unique, assez lourd. Les lacaniens sont plus bordéliques. Ils se voient eux-mêmes comme étant subversifs, alors forcément, ils ne s'entendent pas trop. Enfin, voilà. Donc, il y a une affaire de tonalité, en fait, voilà. Au-delà même de... Non, je pense qu'ils ont quand même... ils sont quand même à la page. Hein. Non, quand même, ils sont... Et simplement, c'est vrai qu'simplement, ils ont une autre langue. C'est vrai qu'ils utilisent un autre vocabulaire pour parler de la psychanalyse. Enfin, ils parlent autrement, si vous voulez. Il y a une langue de référence qui n'est pas tout à fait la même. Dans leurs publications, par exemple, ça se voit. Enfin, ils n'utilisent pas tout à fait les mêmes mots, disons, pour le dire concrètement. Mais non, ils ont quand même... il y en a certains qui n'aiment pas trop Lacan, mais il y en a d'autres qui ont lu Lacan et que ça intéresse. Ils sont pas non plus... Voilà, ils sont quand même intéressés par la question. Ils sont pas plus bornés que voilà, pas non plus. Non, il y a aussi les Jungiens, il y a quand même. Non, mais voilà, mais disons que c'est. Oui, il y a les Jungiens qui sont quand même importants aussi, mais disons que le personnage de Lacan et sa pensée a contribué quand même à agiter tout ça pour le meilleur, parce que ça a apporté beaucoup d'idées, puis en même temps pour le pire, parce que ça a fâché plein de gens. ça fait plein d'histoires, etc. Donc, ben, les lacaniens, c'est en fait la pensée de Lacan donc intéresse en France et aussi dans les pays hispaniques et surtout en Argentine. Voilà, donc en Argentine, ils sont tous lacaniens. C'est le pays, c'est un pays béni pour les lacaniens. C'est un pays dans lequel ils se rendent souvent en général. Mais par contre, dans d'autres pays du monde, en fait, la pensée de Lacan intéresse très peu. Par exemple, aux États-Unis, il y a quelques universitaires, principalement des littéraires, que Lacan intéresse, mais ils sont très peu, en fait. Ça n'intéresse pas du tout l'Amérique du Nord, en fait, sauf une dizaine, peut-être, une vingtaine d'universitaires. Et sinon, en Europe, oui, vous avez la France et l'Espagne, quasiment, quelques Anglais... Mais c'est l'axe, il est franco-espagnol, en effet, franco-hispanique. Comment vous dire, c'est pas très facile de répondre comme ça. En fait, disons que le lacanien, il essaie, enfin, c'est ce que voulait Lacan, en tout cas, il essaie d'ouvrir, en fait, le langage de l'analysant, et il essaie de jouer beaucoup sur l'équivoque, en fait. De pas donner comme ça de clés. C'est plus énigmatique, je pense. Enfin, quoique j'ai jamais fait d'analyse freudienne, mais enfin, d'un point de vue, j'ai pu dire. Je crois que c'est plus énigmatique, en fait. La façon d'intervenir dans le discours de l'analysant est plus faite pour le faire réfléchir et puis ouvrir comme ça au sens, en fait, de ce qu'il peut apporter. Je sais pas trop, mais enfin, il fait autrement, et il joue peut-être moins sur l'équivoque. Voilà. Oui, c'est vrai que vous avez raison, il y a cet aspect-là, oui. Oui, c'est très juste, en effet. C'est vrai qu'effectivement, chez les freudiens, on est censé... Effectivement, ils soignent les gens, donc ils ont l'idée peut-être que ça leur apporte le bonheur ou la guérison. Alors que chez les lacaniens, effectivement, il y a quasiment aucune promesse, en fait. Enfin, comme disait Lacan, Oui, ça, mais enfin, qu'est-ce qui est tenu en ce monde comme promesse? Enfin, bon, bref. Non, mais ce que je veux dire, oui, vous avez raison, c'est vrai que j'ai oublié ce point fondamental. C'est vrai que Lacan disait que la guérison à la fin d'une analyse, c'est un bénéfice de surcroît. C'est-à-dire qu'en fait, bon, éventuellement, un jour, vous serez guéri, mais enfin, de toute façon, c'est pas le but, presque. Alors que chez les freudiens, il y a plus l'idée d'adaptation comme ça du patient, enfin de l'analysant au monde finalement. Alors que Lacan, c'est pas du tout son idée en fait. Je dirais presque son idée, c'était presque qu'il fallait désadapter les gens du monde parce que le monde n'était pas forcément intéressant. Enfin, c'est en gros c'est ça. Enfin, je sais pas, mais c'est quasiment ça. Hein. Donc c'est assez plaisant quoi. C'est assez frais comme. Non, mais moi j'aime bien le côté un peu. Mais c'est vrai, oui, vous avez raison, il y a ça, oui, effectivement. Il se méfiait beaucoup de toute forme de. Oui, mais enfin bon, faut se méfier parce que bon, les freudiens sont pas forcément toujours des gens qui sont attachés à l'adaptation à tout prix, des gens au monde, quoi. Bon, mais enfin, disons que oui, il y a un peu. En tout cas, Lacan, lui, pensait que ce qu'il faisait, c'était effectivement en rupture contre certaines tendances de l'analyse à vouloir à tout prix que les gens soient adaptés au monde. Voilà, ça c'est voilà. Enfin bon, c'est vrai que je. Enfin, il y a quand même des freudiens qui sont quand même frais aussi et qui. Vous voyez, donc voilà, c'est pour ça que je. Faut pas non plus penser que les freudiens veulent absolument adapter les gens au monde alors que Lacan, lui, voulait forcément. Mais enfin, c'est vrai que son idée de la guérison était un peu spéciale, hein, c'est vrai. D'autres questions? Oui? Il n'y a pas que des lacaniens, mais il y en a énormément, en fait. En fait, je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Effectivement, c'est une bonne question. Il doit y avoir des raisons culturelles, historiques. Je ne sais pas. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, ils sont passionnés par la pensée lacanienne et. Je peux pas vous dire en fait, il y a des raisons historiques, culturelles qui sont liées au pays, mais je sais pas en fait. Oui, mais moins quand même au Brésil. Oui, c'est non, mais ça les intéresse aussi. Oui, mais moins qu'en Argentine, c'est quand même. Oui, c'est probable. Oui. Oui, il doit y avoir des histoires, effectivement, d'échanges. Oui, je sais pas, il doit y avoir une histoire aussi entre probablement une sorte d'histoire de culturelle entre la France et l'Argentine. Je pense à Caiguá et tous ces gens-là. Bon, ça a dû jouer pas mal. Ben écoutez, vous pouvez lire, regarder dans les écrits. Voilà, mais enfin bon, c'est. Oui, ben, quoique celui-là, il est assez lisible quand même. Ben, j'ai tiré des fils, alors évidemment, c'est vrai qu'après. Non, mais c'est comme ça que se constitue le moi, mais comme pour Lacan, le moi, c'est une illusion en fait. C'est-à-dire que l'enfant se voit dans le miroir, c'est cautionné par le regard de sa mère ou de la personne qui s'occupe de lui, et donc il a l'impression qu'il existe par le biais d'une image qui se crée devant lui. Mais bon, pour Lacan, effectivement, le moi est une illusion, donc ce qu'il voit devant lui, enfin dans le miroir, ça n'a pas tellement d'intérêt, somme toute. Mais enfin, c'est un stade comme ça dans l'évolution de l'enfant. Bon, enfin, c'est vrai que je suis passée un peu vite sur tout parce que là, faut tirer cette affaire qui pourrait nous mener jusqu'au bout de la nuit. Est-ce bien raisonnable? Pardon? Ah oui. Oui, vous le gardez tout le temps, oui. Oui, vous inquiétez pas. d'après certaines périodes, en fait, l'angoisse, ça pourrait advenir parce que précisément, il n'est plus là. Enfin, il n'est plus là, c'est-à-dire qu'on est plus au bon endroit par rapport à cet objet, plus exactement, puisqu'on l'a toujours, en fait. Enfin, on l'a avec soi, d'une certaine manière. Donc. Mais si, d'une certaine manière, si vous tournez autour en permanence, vous êtes bien orienté puisque vous faites ce pourquoi vous êtes fait pour. Je sais pas si. Oui. Oui, mais enfin bon, si vous me permettez, on va pas se perdre dedans parce que là, en plus, oui, faut. Non, parce que en fait, il aimait bien les. En fait, il a essayé de rendre transmissible son enseignement par des sortes de mathématiques, donc ça s'est appelé des mathèmes. Donc il a écrit un certain nombre de choses sous forme de petites lettres, avec des sortes de rapports comme ça entre les trucs, et en fait c'est assez difficile, donc il y a des sortes de schémas. Donc le S barré, c'est le sujet, puisqu'il est, il est barré parce qu'il est divisé par le langage. Après il y a le petit A, donc petit A c'est l'objet du désir, donc il y en a plein des comme ça, avec des sortes de schémas. Bon, c'est vrai que ça nécessiterait un tableau noir. Oui, excusez-moi, mais j'ai pas répondu, je crois, à ce que vous demandiez. Non. Non, parce qu'en fait, d'abord, vous ne le trouvez pas vraiment, puisque vous pouvez pas l'attraper, en fait, concrètement. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est dans une certaine manière avoir une idée de ce que ça peut être, par exemple, par une psychanalyse, mais pas forcément. Parce qu'un certain nombre, par exemple, d'artistes qui en sont plus ou moins, je dirais, bon, inconsciemment conscients, puisqu'ils tournent autour d'un truc comme ça, donc ils ont une vague idée. Mais même si vous savez, parce que vous avez une sorte d'idée vague que c'est ça, en fait, l'objet de votre désir, ça supprime pas l'angoisse. Par contre, ce qui à mon sens, diminue l'angoisse, C'est le fait d'orienter en fait ce que vous faites de votre vie par rapport à ça. Mais vous n'allez jamais l'atteindre. Par exemple, si vous tournez autour d'une certaine forme de regard, je ne sais pas, regard plissé, tout ce que vous voudrez, ou voilé, enfin peu importe, eh bien, si vous savez que c'est ça, en fait, vous ne pourrez pas l'atteindre, puisque c'est un regard, vous ne pouvez pas l'attraper, en fait. Donc ça ne va pas diminuer votre angoisse. Par contre, si vous commencez à faire une série de photos, par exemple, autour de ça, avec des gens qui se... ou je ne sais pas, ou si vous fabriquez des chapeaux, par exemple, donc un truc, un rapport avec ce type de regard, ça va diminuer votre angoisse. Parce qu'en fait, vous allez vous amuser énormément en faisant ça. Et donc, vous ne serez plus tellement angoissé, ou vous serez angoissé les moments de votre vie où vous faites autre chose, où vous êtes obligé de... Enfin, je sais pas, vous me suivez ? Voilà. Oui ? Mais on ne peut pas l'atteindre, donc il est un peu vide. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'atteindre vraiment, donc vous tournez autour parce qu'en fait, vous remettez toujours ça. Par exemple, dans mon exemple, là, le type qui va commencer à faire des chapeaux parce qu'il tourne autour d'un certain regard ou tout ça, en fait, il va faire une série de chapeaux et puis il va se rendre compte que ça ne suffit pas parce que, bon, c'est joli, ça met bien en valeur le regard, mais il faut faire autre chose. Alors après, il va fabriquer, je ne sais pas, des casquettes, des lunettes, enfin, j'en sais rien. Moi. Enfin, vous voyez, ou une série de photos autour de ça. Non. Une fois que vous en avez un, enfin, c'est lié à votre enfance ou... Et c'est... Non ? Ah non, c'est... Non. Bah, c'est peut-être pas les plus drôles dans la vie, je vous l'accorde, mais chacun son truc, hein. Ça... Mais enfin bon, après tout, si ça les amuse, ça peut aussi être très drôle d'emmerder les autres. Je peux vous le dire de façon vécue, ça peut être très amusant aussi. Donc finalement, ça peut être pas mal aussi. L'essentiel, c'est que les gens s'amusent, après tout. Non, c'est pas du tout hiérarchisé, hein. Oui, c'est ça, qu'ils fassent, voilà, ce pourquoi, voilà, qu'ils fassent leur truc, quoi. Oui. Oui, qu'ils fassent, voilà, puisque pour Lacan, en fait, le destin, c'est ça, c'est faire ce qu'on... C'est réaliser son désir, en fait. C'est essayer de faire en sorte que... De tourner autour de ce fameux objet, qui est différent pour chacun. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Entendre, entendre, écouter, en fait. Il y a des gens qui sont, voilà, qui sont passionnés par tout ce qui est voix, par tout ce qui est un certain type de voix. Bah, possiblement, oui, si c'est... Imaginez que ce soit, je sais pas, une voix perçante, ou j'en sais rien, ça peut être... Là, c'est très large, mais après, ça se décline pour chacun. C'est un regard précis, en fait. Ça, pour chacun, c'est un regard différent, en fait. Ça peut être, je sais pas, un regard sans lumière, voilé, j'en sais rien. Enfin, c'est un certain type de regard, ou brillant, enfin bref. Oui, pour chacun, c'est à chacun de Newton à sa sauce, en fait. Une voix, ça peut être un certain type de voix, en fait. Oui. Non, je crois que ça n'a rien à voir, en fait. Non, je crois que c'est vraiment, il est parti dans un autre truc et c'est pas... Oui, c'est ça. C'est ce qui pousse chacun. Et après, effectivement, mais ça recoupe pas les catégories freudiennes. Oui. Bah, l'objectif, c'est vrai que c'est savoir ce qu'on veut, quand même, malgré tout, hein. Enfin, d'abord, c'est d'aller mieux quand on va pas bien, donc ça. Et ensuite, c'est vrai que c'est savoir quand même ce qu'on veut. Donc effectivement, savoir ce qu'on veut, c'est un moment, peut-être, au bout d'une analyse poussée sur un assez long temps, c'est peut-être effectivement commencer à réfléchir à cet objet qui est au centre de notre désir. Donc oui, dans une certaine mesure, quand on continue longtemps, à un moment vient cette question. Oui. Bah, comme d'abord, comme dans toutes les formes de thérapie, c'est-à-dire simplement d'aller mieux et de se débarrasser de symptômes affreux qui peuvent empêcher de vivre. Donc je pense que, enfin bon, même si Lacan prenait ça de haut en disant que la guérison était un bénéfice de surcroît, je pense que les gens qui consultent, c'est parce qu'ils souffrent. Donc le premier objectif, c'est comme dans tout type de thérapie, c'est quand même de faire en sorte de pouvoir dormir la nuit, manger normalement et avoir des rapports avec les autres à peu près pacifiés. Donc c'est ça quand même l'objectif, enfin comme dans tout. Puis après, effectivement, derrière, on peut raffiner et puis chercher l'objet qu'il a, chercher à reconstruire toute l'enfance et tout. Mais enfin bon, il faut quand même aussi rester prosaïque et se dire que malgré tout, enfin, on y va parce que c'est insupportable, quoi, à un moment. Voilà. Si vous me faites penser au Schmilblick, le Schmilblick, c'est une émission que, quand j'étais jeune, c'était à la télévision et à la radio. Et alors, en fait, le Schmilblick, c'est un truc qu'il fallait deviner, en fait. C'est un objet qu'il fallait deviner. Alors, est-ce que le Schmilblick est bleu? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il a des poils? Est-ce qu'il coûte 1000 francs? Donc là, c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Mais excusez-moi, reprenez. Alors, est-ce que... Bah, il a, pour chacun, c'est l'origine de. Pour chacun, c'est une origine personnelle, quoi. Ça peut être, par exemple, je sais pas, le regard voilé, ça peut être, je sais pas, le regard de la grand-mère, par exemple, voyez. Donc, pour chacun, oui, ça a une origine, mais individuelle. Voyez. Ça peut être, je sais pas, enfin, voyez, un truc. Ou alors, la voix, je sais pas, ça peut être, quand c'est la voix, ça peut être, je sais pas, la voix du père, ou la voix, je sais pas, une voix entendue un soir, enfin j'en sais rien, un truc fort à un moment dans l'enfance, si vous voulez, en général, qui est pris dans l'enfance, quoi, qui est pris sur le père, la mère, ou un des personnages, voilà. Mais il a une origine, oui. Non, mais je repense à l'émission. Comment? Oui, après Coluche, on a fait un sketch, oui. Oui. Non, je pense que c'est. Je sais pas trop en fait historiquement, mais je pense qu'à un moment dans l'enfance, il y a un truc comme ça qui est investi qui investit quelque chose et qui est gardé en fait. Ah, ça peut, oui, je. Ben non, mais d'abord, comme je disais, c'est adapté pour chacun quand même. Donc c'est pas, voilà. Je sais pas, ça peut être une voix caverneuse, une voix, voyez, donc c'est pour chacun, puis ça a un sens. Par exemple, là, ça peut être une voix, je sais pas, une voix rauque, celle du grand-père, enfin, je sais pas, une voix. Mais c'est un truc qui est prélevé dans l'enfance de chacun, si vous voulez. Mais c'est assez simplet, oui, je pense que c'est assez simplet, oui. Mais c'est presque rassurant, non, vous trouvez pas? Vous préféreriez que ce soit ineffable? Ouais, ça peut l'être, ça peut être, je sais pas, vous voyez, oui, c'est quand même un truc qui est bricolé, quoi. Vous êtes déçu, je vous sens déçu. Le Schmilblick, mon Schmilblick, vous êtes déçu. D'autres questions? Au revoir. Oui, c'est quand le sujet, enfin, donc ça c'est dans celui-ci en fait, quand le sujet est trop captivé en fait dans l'autre, si vous voulez, dans le grand autre, en fait, il finit par vouloir se détruire lui-même, en fait. Là, il donnait l'exemple vis-à-vis de la mère, c'est-à-dire la mère qui colle un gamin, qui ne le laisse jamais souffler, et qui est sans arrêt avec, donc en fait, ça angoisse l'enfant, et ça finit par se transformer, enfin, dans l'exemple donné, en comportement parfois autodestructeur. Voilà. Parce qu'on baigne complètement en fait dans le système de l'autre, quoi. On est complètement. Je sais pas, imaginez que vous ayez un compagnon qui vous lâche pas d'une semelle, par exemple, en permanence. Oui, vous voyez, avec le côté, bon, on a besoin de respirer aussi. Donc pour un enfant, ça peut avoir un côté très très mortifère. Bah, en fait, il a rebaladé ça pas mal, en fait. Donc, c'est vrai que bon, là, en fait, votre question est tellement large que là aussi, ça exigerait bon, qu'on reprenne les trucs pour tirer. Donc, je préfère ne pas vous répondre parce que, enfin bon, disons qu'il a quand même insisté pas mal sur le fait que, enfin, que quand la loi du père, on pouvait pas se matérialiser, enfin, se formaliser vis-à-vis d'un enfant, ça pouvait être très destructeur pour l'enfant. Voilà. En gros, hein. Mais voilà, sinon c'est vrai que ça ouvre, voilà, on pourrait relire tout Lacan à travers la castration, ce qu'il a voulu dire. Et là c'est tellement compliqué que je dois avouer que je préfère laisser votre question en l'état parce que sinon ça ouvre une sorte de boîte énorme.
Question parce que j'ai pas voulu.
Ah oui,
je l'ai rencontré dans un restaurant, je le connaissais pas là. Et je déjeunais avec un ami et il n'arrêtait pas de s'en prendre à la serveuse. Et la serveuse est arrivée, les larmes aux yeux. Moi je le connaissais pas du tout. Je me suis levé et je l'ai engueulé. J'ai dit, qui vous souffle
sur le livre derrière, vite fait. Hein.